Mes bien-aimés, nous allons placer ce soir encore notre rencontre sous le regard de notre Père des cieux, ce Père des lumières, ce Père que Jésus aimait appeler Père juste, et dont il disait encore Père saint. Et plus tard, Paul disait, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toutes nos afflictions. C'est sous son regard que nous sommes, pour entourer la personne de son Fils unique qui nous l'a fait connaître. Qui nous l'a fait connaître d'une façon si merveilleuse, qu'il pouvait dire, comme nous l'avons rappelé, à ses disciples, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. De sorte que le Père céleste, c'est pas un être inconnu, c'est pas une grande puissance seulement. Le Père céleste, c'est quelqu'un. Et j'aime à le dire, c'est quelqu'un qui nous aime avec un cœur de mère. Car lui-même se décrit ainsi dans l'Écriture, comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés. Le connaissez-vous, ce Père au cœur de mère, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui, et j'aime à le dire souvent, qui nous assure qu'il voudrait être pour chacun de vous tout ce qu'il a été pour Jésus-Christ, pour son Fils unique. Il voudrait être pour vous tout ce qu'il a été pour son Fils, et il voudrait faire pour vous tout ce qu'il a pu faire pour son Fils, parce que son Fils se laissait faire, parce que son Fils était vraiment dépendant, ne faisait rien sans l'avoir consulté, sans lui. Et Jésus est venu pour que son Père ait des enfants d'adoption, pour que nous soyons adoptés pour le Père, par Jésus-Christ, et pour que nous puissions être adoptés pour lui, et que nous soyons des hommes et des femmes recréés nouvellement, parce que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Jésus a consenti à prendre sur lui nos péchés, nos iniquités, à revêtir notre nature, quoique la sienne était sans péché, mais il a pris une nature de chair pour pouvoir prendre les péchés que nous avions commis ou que nous commettrions dans la chair et qu'ils soient jugés dans sa chair à lui. Car le salaire du péché, c'était la mort. Et si le péché devait être ôté du monde, comme Jean-Baptiste le signalait, il fallait que Jésus meure, sorte du monde avec nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et vous êtes de ces quiconques ici, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné son Fils. Et son Fils nous a donné sa vie pour votre salut qui n'est plus à faire, mais qui a été fait par Jésus, qui a tout accompli. Eh bien, le prix a été payé pour votre salut. Ce qu'aucune religion ne pouvait vous donner, Jésus l'a donné. Ce n'est pas, dit l'apôtre Pierre, avec de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, c'est avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et quand on croit cela, on est assuré que c'est vrai qu'on est sauvé. Pas parce qu'on se croit meilleur que les autres, mais justement parce qu'on croit ce que Dieu dit. Et c'est ça, avoir la foi, c'est pas croire que Dieu existe, mais c'est croire ce qu'il nous dit. Il nous dit que nous sommes des pécheurs, et ça nous le savons. Si nous sommes droits un peu, et que nous regardons dans notre cœur, nous savons très bien ce que nous sommes et que nous ne pouvons pas nous améliorer nous-mêmes. Mais il nous dit ensuite que non seulement nous sommes des pécheurs, mais qu'il nous a tellement aimés que tout en haïssant notre péché, il a voulu sauver les pécheurs et il nous a donné son unique. Et alors nous pouvons croire Dieu. Et la preuve que Dieu a été satisfait par le sacrifice de son Fils, c'est quoi? C'est sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donnant à connaître qu'il avait accepté le sacrifice qu'il a fait pour le monde entier. Mais tout le monde est d'accord que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Mais ce qui vous amène à une jouissance intime de Dieu, c'est de croire qu'il est mort pour vous, personnellement. C'est une question personnelle et que vous pouvez avoir affaire personnellement avec Dieu, personnellement avec le Seigneur. C'est ce qui remplit nos cœurs. Et nous voudrions que ce soir, vous puissiez saisir cela et dire, eh bien oui, il y a un jour dans ma vie, c'était peut-être le 7 juillet, j'ai découvert que j'étais aimé personnellement du Père de Jésus-Christ et qu'il m'aimait comme il aimait son Fils et qu'il était prêt à faire pour moi tout ce qu'il faisait pour son Fils. C'est cela, la relation avec Dieu, la vraie religion pure et sans tache devant Dieu. Une intimité avec le Père des cieux. Père de miséricorde et de grâce, tu nous embrasses tous dans ton immense amour. Tu ne veux qu'aucun de nous périsse, mais que tous connaissent la félicité éternelle et même sur cette terre des joies et une paix que le monde ne peut pas nous donner. Nous savons que dans ce monde il y a des tristesses, il y a du trouble, il y a de l'injustice, il y a du mensonge, mais quand nous te connaissons, nous savons que nous avons un Père de vérité, un Père de justice, un Père de sainteté. Nous passons par des épreuves, mais nous ne sommes plus seuls, nous sommes entourés, et nous voulons te demander que ce soir nous puissions être bénis de ta bénédiction pour ta seule gloire. Amen. Bien, notre thème, chers amis, en ce mardi soir 7 juillet, c'est toujours le même, les œuvres de la foi. Et notre but, bien avoué, c'est que le Seigneur puisse former un peuple qui publie dans ce monde les louanges du Seigneur. Un peuple qui ait la louange sur ses lèvres. Un peuple content de son Dieu. Est-ce que vous êtes content de votre Dieu? Est-ce que vous êtes content de votre Seigneur? De votre Sauveur? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de bien de lui? Parce que vous le connaissez. Parce que ce n'est pas un grand X, un inconnu, mais que vous avez une relation avec lui. Parce qu'il vous a dit quelque chose par sa parole aujourd'hui. Eh bien, ce soir, après avoir présenté à nos enfants, là, tout à l'heure, l'histoire d'une maman de l'Écriture, nous allons terminer notre journée en traitant ce sujet, les responsabilités et les privilèges d'un père chrétien, puisque c'est cela que nous avions arrêté. Et nous proposerons à votre méditation, après avoir vu Abraham comme père, Job et Jacob, eh bien l'homme que nous voudrions vous présenter aussi comme père, un père qui a eu une influence extraordinaire sur ses enfants et qui à la fin de sa vie a pu parler encore au nom de ses enfants. Et quel âge avait-il? 110 ans. À 110 ans, il y a un papa qui pouvait encore parler au nom de ses enfants et qui savait que ses enfants ne diraient pas non. et ne le contrarierez pas. Alors, mes amis, vous pouvez vous dire, alors, c'était un père autoritaire. Non. Les enfants étaient heureux d'avoir un tel père. Et ils ne le contredisaient pas. Ils étaient d'accord avec les paroles que le père prononçait devant une multitude de gens. Qu'est-ce qu'il leur disait ? Vous pouvez choisir qui vous voulez comme Dieu. Mais moi et ma maison, quand on a 110 ans, on a des enfants, et il en avait, nous servirons l'Éternel. C'est bon. Alors, quel est le nom de ce papa ? Papa Josué. Josué, le successeur de Moïse. C'est avec lui que nous allons terminer notre soirée. Mais avant cela, comme nous l'avons compris, et vous avez été d'accord avec cette intuition que l'Esprit nous a donnée, nous vous demanderons de partager avec tous la parole ou la pensée qui vous est venue à l'esprit en écoutant ce matin le deuxième chapitre de l'épître de Jacques. Qui nous présente des enseignements utiles. J'espère que vous avez reçu un enseignement et que vous pourrez nous dire quel enseignement vous avez reçu dans le deuxième chapitre ou revenir sur le premier chapitre si vous n'avez pas eu la possibilité hier d'en parler. Qui nous donne aussi des corrections nécessaires. Tout à coup, on a été éclairé. Tiens, je faisais cela, mais ce n'est pas tout à fait cela que je dois faire. Alors, on a reçu une correction qui imprègne maintenant notre pensée. On sait que nous n'agirons plus de telle manière comme nous le faisions autrefois. Et puis aussi, peut-être que vous avez reçu une consolation en lisant cet épître de Jacques. Alors, nous serions heureux de vous entendre partager pour tous ce que le Seigneur vous a donné dans ce deuxième chapitre de l'Épître de Jacques. À vous la parole.
Pour moi, pourquoi je suis arrêtée, c'est l'ami de Dieu. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Qu'est-ce qui est pour moi devenir, avoir Dieu pour ami? Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Quand on sait que l'amitié, c'est savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'on craint pas de déranger, que ce soit à l'heure, qui est là, qui est réceptif à notre parole, qui nous attend, qui nous saisit. C'est réellement merveilleux. Qu'on lui raconte des secrets de notre cœur, puis que même s'il arrive un pépin, ça va pas bien, qu'il le racontera pas, qu'il le dira pas, qu'il le dévoilera pas. C'est réellement, pour moi, ça me parlait énormément. Seigneur, s'il nous demande de purifier notre cœur, avant, le Seigneur, il prie pour nous autres. N'est-ce pas merveilleux? En plus, il envoie ses anges pour nous protéger, qui campent autour de nous autres. C'est réellement... Pour moi, ça me dépasse. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est simplement de purifier notre cœur, puis que sur nos lèvres va être la grâce, puis on va avoir le roi pour ami. N'est-ce pas merveilleux?
Amen. C'est tellement beau. Abraham a été appelé ami de Dieu. Et cela vient de nous souligner cela. Et Jésus disait justement en lui, dans le chapitre 15 de Jean, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que pense son maître, mais l'ami connaît la pensée. je vous appelle mes amis. C'est pas seulement Abraham qui était appelé ami de Dieu, mais Jésus vous dit, vous êtes mes amis. Oh, puissions-nous garder cette parole. Quelqu'un d'autre viendra partager une parole qui lui a fait du bien, ou qui l'a exhorté.
Au verset 25, on dit que Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle est partie par un autre chemin? Je me suis un peu demandé pourquoi est-ce que Jacques avait choisi justement cette femme, une prostituée, pour montrer, mettre en évidence la foi de cette personne-là. Et puis, dans la référence qui est en Josué 2, au chapitre 2, on parle justement de cette personne qui était Rahab. Et au verset 9, on dit qu'elle savait Rahab. Au chapitre 2 de Josué, au verset 9, on dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Et cette personne, Rahab, j'imagine que si elle savait ces choses sur l'Éternel, on peut aussi conclure que les autres personnes savaient ces choses-là aussi. Et je pense que c'est pour ça que, et ça, ça nous distingue un peu, ça nous en dit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de gens savent que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix. Ils ont une connaissance qu'on peut appeler biblique ou théorique des choses. Ils savent toutes ces choses comme Rahab le savait et les autres gens qui étaient retranchés derrière la muraille de Jéricho, qui étaient retranchés derrière leur sécurité matérielle en s'érigeant ce mur. À l'exception de Rahab, elle savait ça, mais elle a agi. Elle s'est appropriée ce qu'elle savait de Dieu, et elle a dit, même si dans sa condition de pécheresse, Rahab était une prostituée, elle aurait pu regarder à sa condition à elle, mais c'est pas ça qu'elle a fait. Elle s'est servie de ses connaissances, et par la foi, elle s'est dit que ce Dieu-là aussi est capable de faire des choses pour moi. Et avant même de demander des explications aux espions qu'on lit ici, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison. » Alors, elle a reconnu que ces hommes étaient des hommes qui venaient de la tribu, qui venaient du peuple juif, et que leur Dieu était un Dieu qui était plus puissant. Sauf qu'elle, au lieu de se retrancher derrière la muraille, elle a eu confiance en ce Dieu-là, et évidemment, on sait l'histoire, après, avec le petit ruban attaché à la fenêtre, elle et sa famille ont été sauvés du péril. Et aujourd'hui, moi, ça m'enseigne beaucoup, parce qu'on retrouve beaucoup de ces gens qui se retranchent derrière leur sécurité matérielle dans le monde, et des gens qui connaissent, comme le peuple retranché derrière la muraille, qui connaissent tout ce qu'on doit connaître par rapport au salut. Ils savent de quelle façon est-ce qu'on peut accéder à ce salut. Ils savent qu'il faut retourner au pied de la croix et de se reconnaître comme tel pécheur, que le Christ est mort pour chacun de nous. Tout ça, c'est connu, sauf qu'on ne fait pas de gestes. Alors, Rahab, pour moi, là, c'est ça, j'ai compris, je pense, pourquoi on avait choisi cette personne-là, parce qu'elle avait peut-être toutes les raisons de faire comme ses vis-à-vis, se retrancher derrière une muraille, mais c'est pas ça qu'elle a fait. Elle a même risqué sa vie pour faire ce geste. Mais c'était pas pour eux, en fait, qu'elle le faisait. Finalement, c'était pour elle, parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle savait que si Dieu était avec ces gens-là, elle aussi pouvait être avec cette famille. Elle est devenue de la descendance. Elle est citée dans le Nouveau Testament arabe, même si elle était une prostituée. Alors, elle avait la connaissance de la puissance de Dieu, mais elle avait aussi les œuvres. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Et c'est très actuel pour nous, parce que des gens, dans la situation des gens de Jéricho, il y a un parcours, en fait, le monde en est rempli actuellement. Et je pense que Jacques a choisi dans ça, là, je m'en suis aperçu en méditant un peu là-dessus, vraiment la personne qui devait choisir ça.
Merci Bertrand. Et c'est magnifique, n'est-ce pas, quand on commence à sonder les Écritures, quand on commence à y goûter, à manger les Écritures comme Jérémie le dit, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, il faut les mâcher, hein, je les ai mangées, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. On fait des découvertes qui nous édifient, qui nous fortifient. Et dans ce que vous disiez, j'étais frappé, elle n'a pas regardé à ce qu'elle était, hein, parce que nous regardons toujours à ce que nous sommes. Hein. Il n'est pas question de regarder à ce que nous sommes misérables. Elle était une prostituée, elle le savait. Elle a regardé à ce que lui était, puis elle a témoigné, hein, qu'il était le Dieu des cieux, le vrai Dieu, le plus puissant. Elle a regardé à ce que lui était, et elle a mis sa confiance en ce que lui était, parce que si vous regardez à ce que vous êtes bonne pour ou bon pour le suicide. Tandis que quand on regarde à ce que lui est, alors on est encouragé, on est empoigné, et on va de l'avant, et on fait des expériences merveilleuses. Et il y a une autre chose qui me frappe, c'est la conduite de l'esprit dans ce camp. J'y avais pas pensé qu'on parlerait d'une prostituée. Puis tout à coup, là, aux enfants, on leur a parlé d'une prostituée, même de deux prostituées. Puis on a vu que dans le cœur même d'une prostituée, il pouvait y avoir un amour extraordinaire. Que les entrailles d'une prostituée pouvaient devenir frémissantes quand il est question de sauver la vie d'un enfant. Eh bien, chez Rahab, la prostituée, quand elle a eu conscience que la ville allait être détruite, parce qu'elle était sûre qu'ils auraient la victoire, eh bien, dans ses entrailles, à qui est-ce qu'elle a pensé? À sa famille. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Une prostituée qui pense au salut de sa famille, à papa, à maman, à ses frères, à ses sœurs. Il n'a pas dit qu'elle avait des enfants, elle. Mais elle a pensé à tous les siens. Elle a réussi de les convaincre de venir passer un séjour chez elle sur la muraille. Et puis, elle a réussi à les tenir pendant les 7 jours où ils ont fait le tour de Jéricho. Moi, je trouve ça admirable, merveilleux. Comment est-ce qu'elle s'y est prise pour les garder dedans? Parce que s'ils étaient sortis, ils auraient péri, hein. Eh bien, voilà la foi, ce qu'elle peut faire. Et nous autres, évangéliques et tout ce que vous voulez, nous n'aurions pas la foi pour d'autres personnes dont nous voulons le salut. Que le Seigneur nous secoue, que le Seigneur nous donne une nouvelle conscience et que nous soyons renouvelés, puisque la foi d'une prostituée a pu sauver toute une famille qui est entrée dans le pays de Canaan, eh bien, que nous aussi, nous ayons plus de foi et que nous puissions croire. C'est ça la parole, c'est ça qu'elle veut, que la foi veut nous donner. La foi produit une œuvre. Et il y a eu une œuvre chez Rahab. Et cette foi qui a produit une œuvre, eh bien, par cette œuvre, elle a sauvé les siens. Qu'il en soit ainsi pour nous. Merci Bertrand d'avoir partagé cela. Quelqu'un d'autre?
Bien, moi, c'est une correction que j'ai reçue de ce chapitre 2 de Jacques. À la fin du verset 13, nous avons lu ce matin « La miséricorde triomphe du jugement ». Puis je me suis examinée, puis j'ai vu que moi, j'ai tendance à juger sévèrement les personnes qui se divorcent puis qui se remarient avec d'autres. Puis j'ai vu que j'obéissais pas à la parole de Dieu, puis je demande vraiment à Dieu de me donner la miséricorde qui triomphe du jugement.
Merci, François. Ça me touche plus que vous ne pouvez le penser, parce que samedi, après ce camp, j'aurai à apporter un message à un couple qui a connu la séparation l'un et l'autre, qui ont de chaque côté des enfants, qui se sont convertis et qui seront mariés civilement à Grimby, et qui m'ont supplié de leur apporter la parole. Je ne suis pas celui qui peut bénir, pas plus que celui qui peut maudire. Mais ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que je ne peux pas leur refuser ma présence et de leur apporter la parole, justement, dans ce sens que la miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement parce qu'ils ont besoin d'éprouver la miséricorde de Dieu. Je sais que je serai critiqué, probablement. Ma tâche n'est pas facile, elle n'a jamais été facile. Mais j'ai à répondre à mon Dieu. Mais je vous remercie de savoir que vous prierez pour moi, pour que je sois fidèle dans le message que j'ai apporté, que je crois avoir reçu du Seigneur. Je ne biaiserai pas. Ma présence n'est pas l'approbation du divorce ou d'autre chose, mais ma présence est là pour le montrer ce que le Seigneur peut faire, même de vies qui ont été ruinées, mais qui voudraient devenir un foyer à la gloire de Dieu. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de possibilité, ni pour l'un ni pour l'autre, de retrouver son premier conjoint. Merci Françoise de ce que tu nous as dit. Quelqu'un d'autre?
Le commencement du deuxième verset. Je me rappelle la première fois lorsque j'avais lu l'Épître de Jacques. Puis j'avais lu concernant l'attitude que nous avons souvent devant en ce qui concerne une considération de personne. Puis, après avoir lu ces versets, je me suis senti vraiment, on fait un examen personnel, on réalise vraiment que on a un cœur, comment je dirais ça, tortueux, parce que on réalise vraiment qu'on fait considération à la personne, parce que si nous avons un riche, nous avons un pauvre qui rentre dans notre assemblée, nous serions portés à... Moi, je ne devrais pas dire nous serions portés. C'était l'impression que vraiment que j'aurais... comment je dirais ça... avoir donné une meilleure considération peut-être à celui qui était bien habillé, puis peut-être qu'on avait oublié le pauvre. Et ça m'a mis vraiment devant que ça de cœur qu'on avait. C'est beau lorsqu'on vient au Seigneur, tout est rose, tout est beau. Mais lorsqu'on commence à lire la parole, on s'aperçoit que on n'est pas si beau, parce que la parole nous met devant des faits souvent qu'on peut se frapper sur la poitrine, meilleur coup de pas, parce que plus on lit la parole, plus qu'elle nous enseigne, plus qu'on voit comment misérable qu'on est. Souvent, on se demande pourquoi est-ce que le Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous regarde, mais si on se retourne puis on lit plus loin, on s'aperçoit que c'est par son amour qu'il a fait ça. Puis tout ce qu'on a à faire, nous, c'est employer de cet amour. Peut-être juste une petite portion de l'amour qu'il pourrait avoir pour nous, parce que avoir le même amour que Dieu a pour nous, ce serait... C'est vraiment quelque chose, mais juste une portion de son amour envers notre prochain. On pourrait pourrait se sentir peut-être mieux. Je ne sais pas si vraiment... des fois, lorsque j'essaie d'expliquer vous juste ce que je veux dire, ce qu'on le sent dans notre cœur, ce que la parole nous enseigne. Comment misérable qu'on peut avoir été déjà.
Merci, André. C'est vrai, ce début du chapitre 2, il est vraiment saisissant. Nous avons dans nos cœurs cette tendance à faire acception de personne. Ne serait-ce qu'une personne belle, elle nous attirera d'abord, mais voyez-vous, ce qui compte, c'est la beauté divine. C'est d'être beau pour Dieu. On peut trouver des personnes qui n'ont peut-être pas des traits très fins, on ne peut pas dire qu'ils sont beaux physiquement, mais quand vous les regardez, vous voyez qu'il y a sur eux une beauté qui n'est pas d'ici-bas. Même avec des traits un peu à coup de hache, tout à coup vous voyez qu'il y a quelque chose dans cette personne et vous discernez une beauté. Cette beauté divine. Ceux qui regardent vers lui sont rayonnants de joie. Ça nous arrive des fois de rencontrer dans la rue peut-être quelqu'un qui on est frappé. C'est pas la beauté physique, il y a autre chose. Une beauté divine. Mais nous devons faire vraiment attention à cela. De ne pas nous laisser conduire par nos sens, mais d'avoir l'esprit qui nous fait discerner. La valeur des âmes. Vous pensez que l'apôtre Paul était beau, vous? Vous savez ce que veut dire Paul? Petit. Hein? On pense qu'il était petit. Et puis, comme il avait une écharde, il en parle aussi. Il a souffert. Et il dit aux Galates, vous n'avez pas repoussé mon infirmité. Et il était touché de l'amour qu'on lui témoignait. Il faut s'accepter tel qu'on est. Mais vous êtes beau pour Dieu. Il vous aime comme vous êtes. Et c'est quand vous le regardez, vous devenez rayonnant. Ce n'est pas les cosmétiques de Jézabel que vous avez besoin, mes sœurs. Parce que quand on fait trop Jézabel, on est défenestré. Vous savez ce que ça veut dire? Elle a fini par la fenêtre. Et les chiens l'ont mangé. Ça devait être bon. Pauvres chiens qui sont empoisonnés avec tous ces phares. Parce qu'elle se fardait outrageusement pour essayer de séduire le Jéhu, là, le roi qui arrivait. Elle a essayé de le séduire. Bien sûr. Mais Jéhu ne s'est pas laissé séduire. Il a fait un signe aux gardes-corps de Jézabel. J'étais là en bas. Les gardes-corps, j'aurais dit là, c'est pouf. Trop content de se débarrasser de la gouvernante. Qui n'était pas gouvernante, qui était reine. Attention, Jézabel. Ne soyez pas des Jézabel. Et que le Seigneur nous permette d'accueillir dans nos assemblées, dans nos églises, les gens comme ils sont. Et pas parce qu'ils sont riches, en se disant, ben voilà, on aura un soutien dans une assemblée, mais comme ils sont. Puis voyez-vous, s'il y a des pauvres, Moi, je suis sûr que la pauvreté, ce n'est pas quelque chose d'incurable. Qu'on peut être venu au Seigneur pauvre, mais qu'une fois qu'on est au Seigneur, il y a un tas de choses qui changent dans notre cœur et des causes de pauvreté disparaissent. Et que ce n'est pas normal de devoir toujours entretenir certaines personnes. Il faut les enseigner. Alors, l'ordre entre dans une vie. Et quand il y a l'ordre, il y a bien des choses qui changent. La propreté entre dans une vie. Quand il y a la propreté, on risque aussi plus facilement de trouver du travail. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est l'œuvre du Seigneur. De sorte que les pauvres, ils ont besoin du Seigneur. Et une fois qu'ils ont le Seigneur, eh bien, on voit leurs conditions changer. Parce que c'est vrai. Une fois qu'ils ont le Seigneur, qu'est-ce qu'ils découvrent? Un Père. Et ce Père, qu'est-ce qu'il dit? Il nourrit les oiseaux du ciel, il revêt les lys des champs. Alors, il prendra soin de nous. Et ça, il faut le leur faire remarquer. Je l'ai fait remarquer au refuge, là, dans l'œuvre que nous avons fondée avec ma première femme, à Nice, et qui continue par la grâce de Dieu, par mes enfants qui s'y trouvent, la sœur de Marie-Lise. Eh bien, on a dû bien souvent recevoir des gens très pauvres, qu'on a hébergés, tout ce qu'on veut, mais ils ne restent pas dans cet état si vraiment le Seigneur entre dans leur cœur. Mais si c'est simplement pour vivre au crochet des autres, c'est pas cela que le Seigneur demande. Mais il y a une transformation qui s'opère. Et on prend le goût du travail. Parce que celui qui ne veut pas travailler, dit l'Écriture, il ne doit pas manger non plus. Il faut remettre les gens sur des rails. Et puis aussi leur apprendre justement que peut-être qu'on doit commencer par leur donner un bon bain. Les nettoyer. Parce que ça fait partie, l'hygiène, il y a tout un livre sur l'hygiène dans la Bible, c'est le Lévitique, qui a des chapitres et des chapitres pour nous montrer comment on doit prendre soin de notre corps. Alors ça aussi, il faut l'enseigner. Quelqu'un a été frappé par autre chose, puisque c'est pratique l'Épître de Jacques.
Il y a un gars à l'Assemblée, je ne savais pas comment le décrire, mais disons que c'est un gars dans la simplicité, il est un peu déficient peut-être, léger, et en même temps intelligent sur certaines choses. Je pense qu'au sujet de ces versets qu'on a lus, c'est un peu spécial parce que ce type-là est rentré à l'Assemblée à un moment donné, et puis je pense qu'il nous a appris des choses à chacun de nous. Et puis, c'était en le regardant et en jouant avec lui. Mais au début, on m'avait dit que les gens avaient peur de l'approcher. Puis, qu'est-ce que je veux vous partager? Mais c'est ceci. On avait dit que c'est lui qui s'est approché de nous. Il le fait qu'il s'est approché de nous, mais il s'intéressait à partager avec nous, à aller à des activités avec nous, s'informer sur ce qui se passe chez nous, etc. Puis, il salue tout le monde, tu sais. Et je trouve ça bien à l'Assemblée parce que je suis sûr que chacun de nous a appris de grandes choses là-dessus. Je vais vous donner un exemple, OK, pour que vous compreniez mieux. Ce type-là, ça faisait une secousse, puis il demandait à moi et ma femme, mais bien, qu'est-ce que vous faites après-midi à vous claviser ou quelque chose? C'est un peu comme ça qu'il y avait, tu sais, à peu près. T'sais. Comme je vous dis, il n'est pas déficient, là, mais il est un peu, comment on dit, il met de la vie, les gens. Bon, toi, et puis il ouvre son petit œil, il n'est pas attirant, mais il pourrait prendre ça si vous voulez, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ce type-là, il avance et puis il s'invite. Il s'invite d'une manière spéciale, il ne dit pas, ben, je vais aller chez vous après-midi, je vais aller manger chez vous, j'ai faim, là. Mais, c'est drôle la façon dont il parle. Mais c'est bon, parce que je suis convaincu que chacun de nous à l'Assemblée, on a fait quelque chose avec ce type. Convaincu. Et puis, c'est arrivé quelques fois qu'on l'a invité chez nous. Peut-être qu'il est même mieux éviter un frère qui faisait l'entente de la Roche à la puis qu'on lit toute la famille, puis c'est très loin, etc. Mais on l'a invité chez nous. Et je remercie le Seigneur. Puis il y a d'autres gens qui l'ont invité. Puis il y a d'autres gens qui l'emmènent avec lui à des activités. Puis les gens dans l'Assemblée lui parlent de plus en plus. Mais vous savez, des fois, peut-être que c'est bon, l'hospitalité, on peut prendre cet exercice-là pour approcher nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée. Peut-être avec ceux qu'on a de la misère à partager, ceux qu'on a de la misère à parler avec, il y a des choses qu'on voudrait apprendre avec eux, ou, vous savez. Et puis, on n'est pas toujours intéressé à inviter telle personne. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas. Si, on est plus porté à aller vers ceux qu'on aime plus tout de suite, puis on est plus à l'aise, ça fait plus longtemps qu'on connaît. C'est la même chose pour quelqu'un de nouveau qui vient à l'Assemblée. Quelqu'un de nouveau, on n'est pas toujours porté à aller vers lui tout de suite, on ne connaît pas, etc. OK, c'est pas nécessairement, moi je ne veux pas défaire le contexte, mais c'est pas obligé nécessairement d'être un pauvre ou un riche qui rentre ou ces gens-là. Moi, je vais plus loin avec ça, voyez-vous. Et puis, le Seigneur, il peut nous parler au travers de ça. Quand, mettons, un grand prédicateur va venir chez nous, mais là, c'est facile que tout le monde va aller le voir. Je ne veux pas vous dire, mais c'est facile d'aller voir la personne. On a le paquet de questions à lui poser, etc. Et tout, hein. Quand on a invité, comme on a un frère qui va venir de l'Ouest, apparemment, qu'on n'a pas vu, il va venir bientôt, peut-être que ça va être facile. Ah, comment ça va? On a plein de choses à raconter. Mais moi, je veux partager ça parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent à l'Assemblée et puis que le Seigneur a besoin qu'on fasse les pas. A besoin qu'on ait un témoignage tout à fait spécial. Et ces personnes-là, ça peut être des personnes du quartier autour, comme nous on prie souvent. Ça peut être des personnes qui ont besoin d'entendre la parole. On doit s'approcher d'eux et partager avec eux. Et pas choisir ceux que vraiment on veut parce que c'est plus facile avec eux. Et comme ce type-là là, qui est dans l'Assemblée chez nous, et que ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu, on en a parlé dernièrement, peut-être parce qu'on s'ennuie, et je trouve ça bon. Je vais juste partager comme ça. Et puis, je sais pas, moi je trouve que ça va avec ça, justement, pas choisir et pas faire de distinction un entre l'autre, mais vraiment prier et puis que le Seigneur nous dirige là où nous veut, puis qu'on puisse vraiment échanger, partager librement. Merci,
Jacques. Je sache qu'un matin, je suis allée digérer un petit peu tout ça, là. J'ai mis encore beaucoup à digérer, mais il y avait un verset qui me parlait, c'est le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, quand on parle d'Abraham, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Je me dis, bon, ça fait quelques années que tu es chrétienne, puis là, bon, tu flattes un petit peu, hein, tu dis, tu fais ci, tu fais ça. Mais je me dis vraiment, est-ce que j'ai la foi agissante? Vraiment, une foi qui peut tendre à la perfection. On parlait de la perfection au début du camp. Hein? On disait, on ne peut pas être, on ne dit pas je suis parfait, mais toujours courir pour atteindre la perfection. Je trouvais que c'est un verset qui me parlait, en tout cas personnellement. Et puis, je me disais aussi, les deux versets qui disent que les promesses, tout ce qui est promis à ceux qui l'aiment, hein, la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, et puis qui est répété au verset 5. Puis je me disais, est-ce que je t'aime vraiment, Seigneur? Est-ce que je t'aime? Tu sais, je méditais là-dessus. Est-ce que je t'aime vraiment, Seigneur? Parce que je dis, OK, oui, je t'aime, mais je me disais, mes parents, je les aime quand je pense à tout ce qu'ils font pour moi. Hein? Je pense, ça a été la fête des pères, j'ai tout pensé à mon père, je me disais, je vais lui dire que je l'aime, parce que c'est quand je pense à tout ce qu'il fait pour moi, ce qu'il fait encore pour nous, puis je me disais, Seigneur, si je pensais plus à ce que tu as fait pour moi, en pensant à sa mort sur la croix, je me disais, peut-être que je vais arriver plus à l'aimer. Puis c'est des choses que j'ai méditées aujourd'hui. Mais comme je dis, j'ai encore beaucoup de choses à gérer.
Moi, sur un mot sur lequel je me suis arrêtée, c'est le verset 5 qui dit « Écoutez ». Et puis dans le premier chapitre aussi, on voit où Jacques me dit d'être prompt à écouter. Et puis, je pensais souvent comment on peut reprocher à un caractère d'être trop prompt, prompt à juger, prompt à se mettre justement en colère, prompt à s'emporter, beaucoup dans le sens négatif. Et puis, pour une fois, je voyais vraiment être encouragée à être prompt, mais cette fois-là, être prompt à écouter. Pour moi, ça m'a repris vraiment le fait que le Seigneur me dit « écoute ». Pas seulement « tais-toi », mais quand tu lis, écoute. Parce que souvent, ce que je fais, surtout dernièrement, je lisais beaucoup les proverbes. Je voyais plein de paroles. Je trouvais ça beau, mais ce que j'ai tendance à faire, c'est quand je lis, je trouve ça beau, je trouve ça merveilleux, je trouve que c'est des paroles tellement vivantes, tout ça, mais ce que je portais à faire, c'est de penser à ma sœur, de penser à toute ma famille, dire, il faut que je lui écrive ça, tiens, elle a besoin de ces paroles-là, mais... c'est vrai, puis j'écris, puis je leur envoie un tas de choses, puis... Mais dernièrement, j'ai lu beaucoup dans les proverbes, puis je sais pas, je pensais aux autres, mais jamais j'ai pris le temps d'écrire, je l'avais pas le temps, et puis je reprenais ma lecture, puis j'ai lu combien de fois, puis finalement, j'ai compris que le Seigneur voulait, j'écoute. Puis, quand on lit les proverbes, surtout dans les proverbes que j'ai lus au début, dans la vie, il y a beaucoup de proverbes où c'est dit, écoute, écoutez-moi, mon fils, sois attentif, prête l'oreille. C'est tellement, ça revient souvent, souvent où c'est dit, toi, là, la première, commence par écouter ce que j'ai à te dire en ces choses-là. Et puis, je voulais vous partager les beaux versets dans Proverbe 22, qui dit, versets 17 à 21, il dit, prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Puis, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment encouragée, puis de savoir que c'était dans la parole que j'allais trouver des choses sûres, des paroles vraies, parce qu'on entend tellement des points de vue, tout le monde qui a sa façon de comprendre, sa façon d'expliquer. Puis vraiment, en tout cas, ça m'a donné vraiment le goût d'aller chercher dans la parole ce que le Seigneur avait préparé pour moi dans ses conseils et ses réflexions. Ce que je voulais vous partager.
Merci. Ça, c'est aussi un merveilleux encouragement pour vous tous. Il y a bien des années, j'étais arrêté par les textes que notre sœur vient de citer dans les proverbes, et ça m'avait convaincu que le seul secret, justement comme Paul nous le dit aussi, c'est de nous attacher à la lecture. Attache-toi à la lecture et tes progrès seront évidents à tous. Et je suis absolument convaincu que si vous ne lisez pas pour vous-même, si vous lisez simplement, comme notre sœur l'a dit, pour envoyer à d'autres, hein, parce qu'on veut prêcher aux autres d'abord, comme on le verra demain matin, hein, eh bien on est toujours prêt à envoyer peut-être des textes aux autres. Mais il faut commencer par se laisser imprégner par la parole. Et dans ce chapitre que notre sœur nous a cité, eh bien, si ces paroles sont en nous, n'est-ce pas, elles se trouveront disposées sur nos lèvres. Et il est dit des paroles d'or, comme des pommes d'or incrustées d'argent, telle est la parole dite à propos. Si cette parole est en vous, le Saint-Esprit, qui est notre mémoire et qui ne se trompe pas, qui connaît les besoins des autres, mettra sur vos lèvres une parole que vous n'aurez pas besoin de chercher, mais elle montera sur vos lèvres. parce qu'elle est déjà dans votre cœur. Vous n'irez pas chercher dans la Bible, oh, qu'est-ce que je pourrais bien lui donner, qu'est-ce que je pourrais bien lui envoyer, ou lui répondre. Mais la parole étant en vous, elle monte sur vos lèvres et vous pouvez la donner. Et c'est une parole à propos que vous apporterez dans la puissance de l'Esprit. C'est un texte qui est vraiment merveilleux et je vous remercie, ma sœur, d'avoir partagé cela. Parce que dans les Colossiens aussi, Paul nous donne cette exhortation que la parole du Christ habite en vous avec abondance. Il faut qu'elle habite en nous. Et elle se trouvera disposée sur nos lèvres. C'est son travail, c'est son œuvre. Et ce ne sera pas un effort charnel. Mais de ce que le cœur est rempli, la bouche parle. Et je ne suis pas étonné que notre sœur ait pensé au proverbe en même temps qu'elle médite sur l'épître de Jacques, car comme on l'a dit, n'est-ce pas, c'est le même genre littéraire. L'épître de Jacques nous ramène sans cesse au proverbe, ou les proverbes, si on ose dire ainsi, nous ramènent aussi à l'épître de Jacques, comme aussi au sermon, le sermon sur la montagne nous ramène à l'épître de Jacques. On a même appelé l'épître de Jacques le sermon sur la montagne des épîtres. Le sermon sur la montagne des épîtres, parce que ce sont, pour ainsi dire, les mêmes paroles que prononçait le Seigneur Jésus. Eh bien, quelqu'un d'autre a un autre trésor à partager?
J'ai été frappée par le même verset que Jacques et André, c'est-à-dire le premier verset qui dit: mes frères, que votre foi en notre Seigneur, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute exception de personne. Mais moi, ce que le Seigneur m'a montré là-dedans, c'est mon attitude le dimanche à l'église. J'ai des frères à l'Assemblée avec lesquels j'ai de grandes affinités. On peut dire vraiment que nos atomes crochus s'accrochent très bien. Et je suis portée toujours à aller vers ces sœurs-là et à dialoguer avec elles. Et j'ai réalisé que, dans un sens, c'était faire exception de personnes. Et que dans notre église et dans toutes les églises, il y a des personnes qui ont de grands besoins, de grands fardeaux sur le cœur, et que je devrais vraiment plutôt aller vers ces personnes-là qui auraient besoin de partager, de confier vraiment des requêtes de prière. Et je suis portée à vraiment agir selon la chair, puis aller vers ces sœurs que j'aime bien. Puis je l'ai vu vraiment comme un péché, puis comme faire exception de personne. C'est ce que je voulais vous confesser et partager.
Merci. Bien, vous voyez, ça, c'est une correction que le Seigneur, une de ses douze corrections, il nous replace justement au centre, dans la vérité, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes portés à cela. C'est tellement plus facile. Et alors, il y a des gens qui sont dans des communautés et qui disent qu'ils n'ont personne. Je me souviendrai toujours, dans une conférence, il y a un homme qui s'est levé, puis il a hurlé sous la tente: « Je n'ai personne !» Et c'est vrai, il y avait beaucoup de monde, mais il se sentait étrangement seul. Et vous savez que c'est une parole que Jésus a entendue dans le chapitre 5 de Jean, quand il est allé au réservoir de Bethesda. Il a vu un homme qui était paralysé depuis combien d'années? 38 ans. Et puis il lui a dit: veux-tu être guéri? Et quelle a été la réponse? Ce n'est personne. Ce n'est personne. Il y avait l'eau qui était remuée, semble-t-il, par un ange. Et puis, le premier qui était jeté dans cette eau était guéri. Et lui dit: eh bien, je n'ai personne pour faire cela, pour me conduire là. Je n'ai personne. Et il a dit ça: je n'ai personne devant le Seigneur. Et il avait quelqu'un. Il a eu quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était le Seigneur. Et c'est beau. Tandis qu'il y a des gens aussi qui ne voudraient voir personne. Hein, vous le savez. Dans le chapitre 4 du même évangile, il y avait une femme qui ne voulait voir personne. Elle sortait à midi pour aller prendre l'eau au puits, parce qu'elle ne voulait voir personne. Tandis que dans le chapitre 5, il y avait quelqu'un qui aurait bien voulu avoir quelqu'un, mais il n'avait personne. Puis voilà que, au chapitre 4, j'aime tellement ce récit. Cette femme qui ne voulait voir personne, et qui était sûre qu'à midi en Orient, tout le monde reste à l'ombre, il y a un homme qui est assis sur le bord du puits. Quelle horreur! Quelle déception! Elle qui ne voulait voir personne, puis encore, c'est un sale juif. Parce que c'est ça qu'elle a pensé. Comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à une samaritaine? Parce qu'il n'y a pas de relation avec entre les juifs et les samaritains. Alors, elle est contrariée. Et vous savez, moi je trouve que c'est admirable la leçon que Jésus nous donne là. Parce que quand on ne veut pas rencontrer quelqu'un, hein, c'est pas facile d'entrer en contact avec quelqu'un qui ne veut pas nous rencontrer. Quelqu'un ne veut pas vous rencontrer, puis cette personne est obligée de vous voir. Vous êtes là. Alors, comment entrer en relation? Quelle leçon le Seigneur nous donne. Il lui montre qu'il a besoin d'elle. Nous, on pense toujours que les autres ont besoin de nous. Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas une fois qu'on a besoin de vous? Ça, c'est admirable. Jésus, qui n'aurait eu besoin de personne, il lui montre qu'il a besoin d'elle. Donne-moi à boire. Le Seigneur s'abaisse à cela. Donne-moi à boire. Puis le Seigneur connaît toute la vie de cette personne. S'il lui demande à boire, dans quoi est-ce qu'elle lui donnera à boire? Dans sa cruche. Mais qui est-ce qui boit dans sa cruche? Un homme qui n'est pas son mari. Elle a eu cinq maris. Le sixième pour qui elle va chercher l'eau n'est pas son mari. Le Seigneur fait très bien ça. Puis il lui dit quand même, donne-moi à boire. Alors elle est étonnée. Comment toi qui es juif, tu demandes à boire à une samaritaine? Puis vous connaissez la suite. On ne se lasse jamais de méditer là-dessus. Et de voir le changement qui se produit en peu de temps chez la Samaritaine qui a dit, toi le juif, toi qui es juif. Ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui, ça, le juif. Puis tout d'un coup, lui, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé à boire. Et il lui donnait de l'eau vive. Elle, elle le regarde pour devant. Elle dit, mais comment, tu n'as rien pour puiser. Tu veux même donner à boire? Jésus n'avait rien. Nous, quand on veut évangéliser, on a tout un orchestre, toute une fanfare. Hein. On vient avec tout un bazar pour donner à boire au monde. Jésus, il n'avait rien. Et la femme samaritaine, elle le dit bien. Tu n'as rien pour puiser et tu veux donner à boire. Nous, il nous faut toujours des choses nouvelles pour pouvoir donner à boire au monde. Tu n'as rien pour puiser et tu veux me donner à boire. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Mais pour qui te prends-tu pour pouvoir me prétendre que tu vas me donner à boire? Et la conversation continue. Quand il lui dit que l'eau que je lui donnerai, parce que celui qui boit de l'eau du puits, il aura de nouveau soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine qui jaillit en vie éternelle. Alors tout à coup, elle est intéressée. Donne-moi cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir au puits. Donne-moi cette eau. elle a tout d'un coup un intérêt. Et maintenant, c'est elle qui demande. Puis comment est-ce qu'elle l'appelle? Seigneur, qui veut dire monsieur. Ça a changé. Son langage change. Elle le considère autrement. Avant, c'était un juste, peut-être un sage juste. Puis tout d'un coup, c'est un monsieur pour elle. Et quand il lui dit, va, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Il lui dit pas petite menteuse. Il est correct. Mais il lui dit, mais tu as eu un mari. En cela, tu as dit vrai. Vous voyez, toujours souligner quelque chose de juste. Il a des pensées positives à l'égard de cette femme. En cela, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Celui que tu as n'est pas ton mari. Mais il a dit, va, appelle ton mari. Ben, elle aurait pu dire, ben, il me donne l'occasion de m'en aller, je pars. Le Seigneur ne force pas les âmes. Il leur donne l'occasion de se retirer. Mais c'est pas retirer. Puis quand il lui a dit, tu as eu saint mari, qu'est-ce qu'elle dit? Je vois que tu es un prophète. Vous voyez, le juif, après le monsieur, puis après un prophète, puis ça finit par quoi? Le messie. C'est beau, hein? Mais ça fait... C'est l'éducation du Christ. Comment il nous éduque? Comment nous pouvons aussi travailler? Je pense que vous avez eu l'occasion dans la journée aussi de repenser à ce que nous avons pu voir au sujet de notre... cher Jacob, et ce qui m'est apparu à moi, parce que j'y pense aussi, je l'ai déjà souligné hier soir, au fond, Jacob, pendant toute la première partie de sa vie, eh bien, il s'est consacré surtout à la prospérité matérielle de sa famille. Je ne reviens pas là-dessus, mais enfin, il a été vraiment accaparé par son travail. Ce qui ne l'a pas empêché... la nuit de travailler aussi et de faire des enfants. Avec... oui. Et oui. Et il y a eu des enfants, hein. Mais évidemment, il y a eu 4 femmes. Bon. Mais Jacob, forcément, ayant ses enfants, il devait pourvoir aux besoins de ses enfants, surtout que le beau-père Laban n'était pas très commode et l'avait trompé, vous savez comment... toute cette histoire-là. Mais ce que l'on remarque, c'est que de la femme qu'il aimait vraiment et celle qu'il aurait voulu et qui était Rachel, il n'a pas voulu 36 femmes, mais il voulait Rachel, il a servi 7 ans pour Rachel, le beau-père l'a trompé, je pense qu'il n'y avait pas d'électricité de ce temps-là, n'est-ce pas? Et le matin, c'était pas Rachel qui était dans son lit, c'était Léa. Bon. Alors, c'est quand même un peu une déception. Mais il faut comprendre aussi que les mariages, ça se faisait, on mangeait beaucoup et puis on buvait pas mal aussi. Alors, bon, je n'entre pas dans le détail, mais la Bible est un livre saint. Elle nous dit les choses comme elles sont. Le matin, c'était l'air. Alors, évidemment, il y a tirage avec le beau-père, et le beau-père dit, ben l'affaire, fais une semaine avec elle, puis je te donnerai l'autre. Et puis, il aimait Rachel. Il a eu donc, à la fin, un enfant de Rachel, mais qui avait donné sa servante, parce qu'elle avait une grand-mère qui avait fait la même chose. C'est toujours ces histoires de grand-mère, hein, parce que Sarah avait donné sa servante à Abraham pour aider Dieu. Aide-toi le ciel t'aidera. Il faut aider Dieu, soi-disant. Et puis voilà que ça avait fait... Ismaël. Alors, on a ces souvenirs-là, puis on a ça un peu dans le sang. Alors, voilà, on agit de même. Eh bien, c'était plutôt catastrophique. Mais quand Rachel est morte, comme elle lui avait donné Joseph et puis Benjamin, nous voyons Jacob se consacrer, au fond, à ce Joseph en particulier, qui a trop petit Benjamin, mais surtout à ce Joseph, et Joseph a donné tout autre chose que ses frères, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Jacob a été père et mère pour Joseph. parce qu'il n'avait plus de mère. Il avait 6 ans quand il a perdu sa mère. Et au fond, Jacob a senti ses responsabilités et il l'a enseigné. Et il l'a enseigné d'une façon absolument remarquable, hein, tout en étant le pauvre Jacob. Mais en vieillissant, ben, il y a des choses qu'on apprend. Parce que vous savez que quand il a été, quand il obéissait encore un moment, quand il a trompé son père Ésaü, quel âge avait-il, Jacob? Vous savez, 74 ans. Il obéissait encore à maman. C'est beau, ça. Puis après, il a servi 7 ans pour Rachel, etc. Alors, vous voyez à quel âge on arrive. Alors, donc, nous voulons recevoir les leçons de ces hommes qui ont été des pères, voir leurs responsabilités et aussi leurs privilèges. Maintenant, ce soir, c'était donc Josué. Alors, Josué va passer simplement devant nos yeux. Vous connaissez cette histoire et vous pouvez la lire dans le livre de l'Exode, des Nombres, du Deutéronome et de Josué. Il est aussi cité dans le chapitre 11 des Hébreux et dans le chapitre 7 des Actes, dans le discours d'Étienne. Ce Josué, il était né où? Quel était le pays de sa naissance? L'Égypte. Il est né en Égypte, sous le règne de ce pharaon qui voulait détruire, finalement, les Hébreux. Et il a participé à cette merveilleuse délivrance qui eut lieu par quel homme? Par Moïse. Et on le voit dans l'Exode, tout de suite aux côtés de Moïse. Et Moïse lui confie, alors qu'il est encore très jeune, le commandement de l'armée. Une fois qu'ils ont passé la mer Rouge, ils ont rencontré des ennemis qui étaient les Amalékites, chapitre 17. Et c'est à ce jeune homme, Josué, que Moïse confie la direction de l'armée d'Israël. Tandis que Moïse, Aaron et Hur sont sur la montagne en prière, Josué mène le combat contre les Amalékites. Et vous connaissez l'histoire, les mains de Moïse étaient pesantes. Tant qu'il avait la main levée, Josué avait le dessus. Mais s'il baissait la main, les Amalékites avaient la victoire. Alors deux hommes, Aaron et Hur, se sont mis de chaque côté de Moïse pour lui soutenir les mains. Ça, c'est une image de la prière collective et de la force de la prière collective. Un homme tout seul, c'est difficile. Eh bien, mettez-vous deux, mettez-vous trois pour prier et vous verrez des victoires. Pourquoi est-ce que vous priez toujours tout seul? Pourquoi est-ce que vous ne partagez pas peut-être un besoin avec un frère? Daniel l'a fait, lui. Il a confié aussi son problème à ses trois amis et ils ont prié à quatre. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Le secret fut révélé à Daniel. Il y a dans la prière collective une puissance. Il y a une puissance déjà dans la prière individuelle en tant que nous avons pardonné. Il y a des gens qui prient depuis des années pour certaines choses, mais il y a quelque chose qui n'est pas pardonné dans leur cœur et ils ne sont pas exaucés. C'est le Seigneur qui l'a dit, il n'y aura pas de miracle. Tant que vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas être exaucé. Et c'est la condition, c'est d'abord le pardon. Et vous pouvez le demander au Seigneur, tu m'as pardonné, eh bien donne-moi de pardonner. N'attendez pas qu'on vienne vous demander pardon. Ayez le pardon dans votre cœur. Et si vous avez le pardon dans votre cœur, même si on vous a fait du tort, et que c'est une grosse blessure, le Seigneur peut intervenir et vous pourrez voir s'opérer aussi des merveilles. Mais si le pardon n'est pas dans votre cœur, eh bien tout ce que vous essayerez de faire sera vain. Et ce pardon, nous devons le demander. Et on ne peut pardonner que parce qu'on a été pardonné. Alors, vous allez repasser cette vie de Josué qui nous est montrée d'abord dans le chapitre 17 de l'Exode, donc à la tête des armées d'Israël, jeune homme, mais qui devient vraiment le bras droit de Moïse, le collaborateur de Moïse qui conduit le peuple à travers le désert. Ils arrivent au pied de la montagne du Sinaï et vous voyez que quand Moïse monte sur la montagne, il prend avec lui qui ? Josué, pour recevoir tous les ordres du Seigneur. Et quand il redescend de la montagne du Sinaï, c'est Josué qui est à côté de Moïse. Et puis on entend un bruit incroyable au pied du Sinaï et Josué en parle à Moïse et c'est Moïse qui lui dit « Ce n'est pas un bruit de guerre, c'est un bruit de réjouissance. » Qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant que Moïse était ses 40 jours sur la montagne avec Josué ? Le veau d'or ! Ils avaient dit « On ne sait pas ce qu'il est arrivé à Moïse » et ils avaient dit à Aaron « Fais-nous un veau comme Dieu » et puis il s'était mis à adorer le veau en glorifiant le veau d'or alors qu'ils avaient entendu la voix de Dieu dire « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Et vous voyez, 40 jours après, ils étaient tous autour du veau d'or, ils mangeaient, ils buvaient, c'était le festival du désert. Aujourd'hui, on est au temps des festivals. Tous les festivals possibles. Eh bien, oui, et il y avait même Festival Jésus, avec Festival de la crevette, du homard, de la patate douce, de la framboise, de tout ce que vous voulez. Il y a tous les festivals possibles. C'est le grand mélange. Et puis les chrétiens, ils s'adaptent. Festival du désert. Quelle chose triste. Alors, à Moïse descend, il entend ce bruit et il est avec Josué et vous savez que Josué, verset 17, chapitre 32, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a des cris de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est pas un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et qu'est-ce qu'ils chantaient ? Tu nous as fait sortir d'Égypte. Et à qui est-ce qu'ils disaient ça ? Au veau. Un animal qui mange de la paille. Puis même encore, ce n'était pas un veau vivant, un veau d'or. Voilà la folie des gens qui ont pourtant entendu la voix de Dieu, les commandements de Dieu, qui ont vu la montagne embrasée. Alors, Josué a vécu tout cela. Et il a vu la colère de Moïse, l'homme le plus doux des hommes. Alors là, il s'est mis en colère. La colère de Moïse. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brisé les tables de la loi qui étaient pourtant écrites du doigt de Dieu. Il a pensé, c'est fini. L'alliance est terminée, mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la grâce se glorifie vis-à-vis du jugement. Et Dieu a eu la patience de dire à Moïse, bien, toi taille-toi des tables, puis moi j'écrirai de nouveau. Et elles ont été écrites une deuxième fois, mais du doigt de Dieu. Et ensuite,
ils ont été toujours ensemble, je veux abréger, ils ont traversé le Sinaï, et c'est Josué qui a eu la garde du tabernacle. Il était dans la tente d'assignation. Quand Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami, qu'est-ce qui se produisait quand il sortait? Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Alors il a dû se mettre un voile parce qu'on ne pouvait pas contempler le visage de Moïse, tellement il rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et Josué, lui, il ne sortait pas, qu'il est dit, de la tente d'assignation. C'était donc un homme, Josué, qui a vécu dans la présence de Dieu, près de la parole de Dieu. Alors vous comprenez ce qu'il a pu devenir comme père. Et puis, c'est lui qui a été choisi aussi pour aller espionner le pays de Canaan. Il faisait partie des 12 espions qui étaient tous des princes d'Israël. Et ils sont allés 40 jours dans le pays de Canaan comme espions. Ils ont ramené la grappe d'Escol, mais il est le seul, Josué, avec Caleb, pour avoir encouragé le peuple. Parce que les 10 autres espions ont dit, c'est vrai, c'est un pays découlant de lait et de miel, c'est un bon pays, mais il y a des villes avec de hautes murailles, et nous avons rencontré là des fils d'Anak, des géants, et nous, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils ont eu peur, et à cause de leur incrédulité, ils ont découragé le peuple. Ils ont dit, nous ne pourrons jamais entrer dans le pays de Canaan. Et ils ont tellement découragé le peuple que la colère de Dieu a fondu sur eux. Et il a dit, eh bien, puisque vous ne me faites pas confiance, parce que Josué et Caleb disaient, n'écouterons pas ce qu'ils disent, mais allons-y avec le Seigneur est capable de nous donner la victoire. Mais les autres ont découragé le peuple, ils ont décrié le pays, alors qu'ils avaient pourtant ramené la grappe d'Escol, qui est encore le signe d'Israël. Eh bien, les pauvres, leur salaire a été la mort. Les 10 ont été pendus, mais Josué et Caleb seuls ont survécu et ont pu entrer dans le pays de Canaan. On ne se moque pas de Dieu. Josué a été donc un homme dont toute la vie a montré la fidélité et la foi. Il croyait qu'avec Dieu, toutes choses étaient possibles. Et c'est à ce moment-là, il s'appelait Osée d'abord, qu'on l'a appelé Josué, le Seigneur sauve. Et ensuite, il a été choisi par Moïse pour le remplacer. Et sa consécration a été faite par Moïse après que Moïse a manqué. Et c'est justement, vous voyez comme l'Esprit nous conduit, quel était le péché de Moïse qui l'a empêché d'entrer dans le pays de Canaan? C'est le péché de la langue. Dieu lui avait dit de parler au rocher, de parler au rocher. Puis l'eau sortirait. Mais lui, il a parlé à qui? Au peuple. Il s'est énervé en voyant le peuple qui murmurait. Et il a dit, est-ce que vous croyez que l'eau ne sortira pas de ce rocher? Et il a frappé 2 fois le rocher. Et il a parlé au peuple. Et Dieu l'arrête. Et lui dit, tu n'entreras pas dans le pays, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Pourtant, Dieu est un Dieu de miséricorde. L'eau, est-ce qu'elle est sortie? Oui. Mais il avait péché. La méthode n'était pas bonne. Mais ce n'est pas parce que la méthode est bonne que Dieu bénit. C'est parce qu'il est miséricordieux. Mais la méthode n'était pas bonne. Et qui est-ce qui a employé la méthode? C'est Moïse. Et qui est-ce qui ne pourra pas entrer dans le pays de Canaan? C'est Moïse. Mais Dieu a pitié du peuple. Moi, je crois qu'il y a une multitude de sauvés quand même, malgré nos méthodes. Mais ceux qui emploient des méthodes qui ne sont pas selon le Seigneur,
ils auront à répondre. Et moi, j'aurai à répondre. Et c'est cela, les caractères d'un homme de Dieu. Il faut qu'on nous redevenions sérieux, parce que ces scandales que vous voyez aux États-Unis par des hommes soi-disant bibliques, eh bien, ça se propage partout, et il y aura de plus en plus de ces scandales. Et la Bible sera de plus en plus décriée. Et vous, les évangéliques, vous serez mis dans le même panier que les autres. Nous autres, tous, qui que nous soyons, eh bien, que nous puissions nous ressaisir et se dire, on ne va pas servir Dieu à notre manière, mais on va le servir dans la crainte et le tremblement. Parce que Moïse, lui, il a prié 3 fois, il a demandé à Dieu de lui permettre quand même d'entrer. Et Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Et Moïse n'est pas entré dans le pays de Canaan à cause de sa faute. Bien, ça devait nous faire trembler. Mais Dieu a préparé Josué. Vous savez, on n'est pas indispensable. Si moi je manque, si moi je ne suis pas fidèle, Dieu peut me mettre de côté. Et je sais. Et l'apôtre Paul le savait. C'est pourquoi il disait à un moment de sa vie, je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à mes yeux, pourvu que j'achève ma course. Mais comment, Paul, tu crains de ne pas achever ta course? Oui, si Dieu ne me garde pas fidèle, si je ne veille pas sur moi-même, je suis capable en quelques instants, en quelques secondes, de démolir tout mon témoignage. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Souvenez-vous de David. Pour un moment où il n'était pas à sa place, il est tombé. Alors, ce n'est pas les années de piété que vous avez eues dans le passé qui vous gardent. C'est un Seigneur actuel. C'est aujourd'hui que vous avez affaire avec le Seigneur. Ce n'est pas de vous souvenir que vous êtes converti il y a X années qui vous garde. C'est de vivre aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vivez en contact avec le Seigneur aujourd'hui et vous serez gardés. Et cela, Josué l'a appris. Alors Moïse est mort, mais le Dieu de Moïse n'est pas mort. Lisez le premier chapitre de Josué. Moïse, mon serviteur, est mort, mais comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Et vous avez dans le premier chapitre de Josué le secret de la réussite de Josué. Ça rejoint ce que notre frère disait, qu'on peut réussir dans toutes nos entreprises. Vous avez ce même verset dans le chapitre premier, en lisant dans la loi de l'Éternel jour et nuit. Que cette loi ne s'écarte pas de tes yeux. Prends en connaissance jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes voies. On va lire juste ce verset pour que vous l'ayez bien sur le cœur. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussira. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et puis, il reçoit les ordres, il a la vision du Seigneur avant le combat de Jéricho. Il reçoit du Seigneur l'ordre de faire le tour de Jéricho. Il reçoit avant même comment traverser le Jourdain, et il expérimente que ce que Dieu a fait pour la mer Rouge, traverser, faire traverser le peuple à travers la mer Rouge, lui aussi a pu faire traverser le peuple au travers du Jourdain. Les eaux du Jourdain se sont retirées et le peuple a pu passer à pied sec, de sorte que le Dieu de Moïse n'était pas mort. Ce que Dieu a fait pour Moïse, il l'a fait pour Josué. Les murailles de Jéricho qui étaient imprenables, elles sont tombées par la force de Josué, par l'obéissance de Josué. Il a fait le tour de Jéricho comme Dieu lui avait dit. Mais quand il y a eu une transgression avec Achan qui a pris de l'interdit, eh bien, ils ont été battus lorsqu'ils ont voulu prendre la ville suivante. Et Josué alors s'est prosterné sur la terre et il a prié, il a dit, comment Dieu, tu nous as donné la victoire sur Jéricho, puis maintenant la ville d'Aïe, nous n'avons pas pu la prendre. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Finis ta prière, lève-toi. C'est pas de prier qui compte. Israël a péché. Vous voulez continuer de prier puis vous gardez le péché dans votre cœur. Confessez votre péché. Et ça changera. Et voilà. Voilà. Alors Josué, Dieu lui dit, mais je ne veux pas que tu restes là couché par terre. Qu'est-ce que tu fais par terre? Tu pries, tu milites, tu souffles là. Israël a péché. Confessez ce péché. Et alors, voilà la grâce encore qui se glorifie vis-à-vis du jugement. Josué, conduit par le Seigneur, dit à tout le peuple, quelqu'un a péché, je ne sais pas ce qui s'est fait, mais quelqu'un a péché. Tout le monde devait, et on devait apporter tout ce qu'on trouvait à Jéricho, on devait l'apporter pour le trésor de l'Éternel. Et quelqu'un avait volé, avait pris pour lui un manteau de Sinar, de la vallée de Sinar, un lingot d'or et des sacs d'argent, puis il les avait cachés dans sa tente. Comment s'appelait-il? Achan. Eh bien, Achan a entendu ce soir-là Josué dire, demain, l'Éternel montrera ce qui s'est passé. Donc, Achan a eu toute une nuit pour se repentir, toute une nuit pour confesser sa faute, toute une nuit pour venir au pied de Josué et lui dire, c'est moi qui ai fait cela. Il aurait été sauvé. Parce que celui qui confesse ses transgressions obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, eh bien, c'est la mort. Et quand on a tiré au sort, c'est Achan qui est sorti. Et Josué lui dit, mon fils, confesse, qu'est-ce que tu as fait? Et voilà ce que j'ai fait. On a envoyé des jeunes gens, on a trouvé tout cela dans la tente. Mais il n'y avait plus que la mort pour eux. Et il a été détruit, lui et tous les siens. Mais il y avait une journée, c'est le jour de la grâce. Demain, il vous donne encore quelques heures que le Seigneur parle. Et voilà, on pourrait continuer sur cette vie de Josué, mais c'est l'heure. Ce que je voulais seulement dire, c'est qu'à la fin de sa vie, il a rassemblé tout Israël, puis il leur a dit, bien maintenant, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Lui, il a partagé tout le territoire pour Israël, pour les tribus, et il a attendu le dernier pour prendre une toute petite possession. La dernière place. Et il l'a pris près de Silo, près de l'Arche. Il habitait là. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester dans la présence la plus immédiate du Seigneur. Et alors il a pu parler à tout Israël en disant, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Choisissez. Mais vous ne pouvez pas clocher des deux pieds. Il a parlé un peu comme Élie parlerait plus tard. Mais il a pu dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je voudrais seulement souligner cela. Un père peut encore parler au nom de ses enfants. C'est ça.